Radio X.
Bien sûr, ça arrive tout le temps dans Morel Live, des rebrassages de cartes, des chroniqueurs qui s'en vont, qui restent. Il n'y en a pas beaucoup qui s'en vont, je vous le dirais. Celui qui va s'en aller, c'est Joe. Le lave-vaisselle va déménager, oui. Il va se faire élire, député. Je ne peux pas le garder. Puis arrivez-moi pas avec « Ouais, mais là, vous aviez Kerr avant dans Robbie Moreau. » Moi, ça me tente pas d'être inclus dans cette histoire-là. C'était pas moi. Moi, je peux pas porter les péchés de la terre entière sur mes épaules. Il y aura pas d'élus au Parlement. Au Parlement. Je parle du Parlement. Oui, on a déjà eu des chroniques de maire, mais un maire, c'est différent. Là. Le maire Yvon Deshaies, entre autres, c'était coloré. Ça se peut qu'on reparle à Yves Lévesque aussi. Là. Mais c'est un député à l'Assemblée nationale ne sera pas chroniqueur, c'est ça que je veux dire. Et parmi les recrues, on va le dire comme ça, on va l'accueillir ici présent ce matin. Ça m'étonne un peu qu'il ait fait la route quand même de Sherbrooke pour venir nous voir, mais je l'accueille à bras ouverts. Guillaume Rousseau, Maître Rousseau, bienvenue à Radio X.
Ben, merci de me recevoir.
Qui êtes-vous? D'abord, on va se présenter. Présentez-vous. Ouais. Évidemment, vous avez un CV ça de long, là.
Oui, ben moi, je suis professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Puis dernièrement, j'ai été connu parce que j'ai co-présidé deux comités. Un sur les enjeux constitutionnels avec Sébastien Proulx, qui est un gars de Québec d'ailleurs, ancien ministre de l'Éducation. Puis j'en ai co-présidé un autre avec Maître Christiane Pelchat sur la question de la laïcité. Fait que ça m'a mis un petit peu sur la map, comme on dit, de faire deux rapports qui ont été publicisés puis qui ont ensuite influencé donc le projet de loi 9 dans le cas du rapport sur la laïcité, le projet de loi 1 sur la Constitution, qu'on ne sait pas trop ce qui s'en va, on pourra en reparler tantôt, qui a été influencé par le rapport donc Proulx-Rousseau. Alors c'est ça, dernièrement, c'est un petit peu ça qui m'a mis sur la map. Mais sinon, j'ai été dans les médias, j'étais à Québécois avec une chronique au J2M, j'ai été par chez nous à Cogeco, 107.7 Estrie. Je suis avec Marie-Louise Arsenault une fois par mois à Radio-Canada à Montréal. Fait que ça fait quand même une couple d'années que je tourne dans les médias.
C'est un peu divers. C'est diversifié comme tribune, on va le dire comme ça.
Exactement. Puis c'est un peu peut-être ma marque de commerce. T'sais, moi, je parle à tout le monde. Puis,
j'adore ça. Voilà. J'adore ça. J'ai dû recadrer d'ailleurs un liver hier du PCQ. Il y avait le logo du PCQ. Hey, c'est ça, un woke, non? Je pense que vous êtes le contraire d'un woke. C'est pas
ouais,
tout à fait.
Je pense qu'on peut dire ça.
Un woke qui écrit sur la laïcité. Non. Là, si on appelle ça un carnivore, herbivore, ça marche pas. Là. Il faut juste dire les bons termes, les livers, woke, là, tu je trouve que le terme woke est très, très galvaudé. Et en fait, vous êtes tout sauf un woke. Je pense qu'on peut le statuer ainsi. Vous avez établi de fortes critiques quant au multiculturalisme fédéral à tout craint, l'immigration massive et tout. Je pense que vous êtes un critique de ça.
Absolument. Je suis reconnu comme un intellectuel nationaliste. Là, si on voulait simplifier ça, là, on pourrait dire ça.
Okay. Dans la mouture de qui, par exemple, pour les gens qui veulent essayer de vous caster un peu, intellectuel, nationaliste, Bocoté, un genre d'Étienne Alexandre Beauregard.
Ouais, c'est tous des amis.
Un intello au pur et dur.
C'est tous des amis. On s'est connus à une époque à la revue L'Action nationale. Fait qu'effectivement, un peu dans la mouvance de ces deux-là, effectivement, on est proches à la fois amicalement et idéologiquement. Fait que c'est un bon.
Bonne référence, on plonge. Là. Fréchette, c'est qui?
Ben, Fréchette, c'est le côté HEC, managérial. Puis, tu sais, quand on nous dit c'est l'aile rouge, oui, un peu, là, forcément, c'est en contraste avec.
Moi, j'appelle
Bernard
ça
Drinville.
Un bel hommage au Parti libéral. La CAQ est devenue un groupe hommage du Parti libéral.
C'est vrai que son discours en fin de semaine, parce que j'étais là, j'étais allé sur le plancher avec ma carte média, puis effectivement, son discours, c'était très managérial. Tu sais, l'efficacité, puis les propulsions, synergie, tu sais, tous des mots HEC, mais qui veulent pas dire grand-chose. Puis ça nous rappelle un peu Robert Bourassa. C'est peut-être une façon gentille de présenter ça, parce que Robert Bourassa, même s'il y avait du contenu, puis Christine Fréchette, c'est une fille qui a du contenu, quand venait le temps de faire la politique, Bourassa, c'était des slogans. T'sais, 100 000 emplois, puis c'était d'attaquer ses adversaires. Ce que fait moins Mme Fréchette, il va falloir qu'elle apprenne à le faire, je pense, un peu plus. Elle avait une ligne contre le PQ, une ligne contre le PLQ, alors qu'elle aurait pu plus. Puis ça, je pense que c'est une erreur de la CAQ. Dans leur course à la chefferie, ils auraient dû taper pas mal plus sur le PQ-PLQ, parce qu'en politique, c'est la meilleure façon d'unir ton monde, c'est de frapper contre les autres. Les caquistes, ils pensent tout différent, mais ils sont tous contre le PQ puis contre le PLQ, même si, des fois, ils viennent de là à l'origine.
Mais elle, sa piscine n'est pas grande. Là. Son terrain de jeu n'est pas grand, dans la mesure où la législature sera dissoute le 12 juin. Donc, elle arrive le 15 mai, officiellement, avec son équipe. Ça ne laisse pas grand terrain de jeu. Et moi, j'ai peur qu'on tombe dans des politiques cyniques du genre « m'a donné des rabais d'épicerie ». Là, elle veut couper, évidemment, on veut toutes des baisses d'impôts. Là, on n'est pas au point, là. C'est qu'il y aura du racolage.
Ouais, ouais.
C'est du racolage. Est-ce que tu crains ça?
Ben oui, en même temps, comme tu le dis, on peut pas être contre les hausses de les baisses de taxes. On est tous pour les baisses de taxes, puis peu importe d'où qu'elle vient. Mais après ça, quand on pousse un petit peu, idéalement, c'est mieux de baisser les impôts que les taxes à consommation, parce que quand tu baisses les impôts, t'encourages le monde qui travaille fort, puis t'encourages les entreprises de chez nous. Fait que, tu sais, tant qu'à faire une politique fiscale, de conservatisme fiscal, on serait mieux de baisser l'impôt sur le revenu. Mais une fois qu'on a dit ça, on est tous contents qu'il y ait moins de taxes. Puis quand il y a moins de taxes, c'est moins de revenus pour l'État. Fait que là, ça force l'État à être plus efficace. Fait que c'est une bonne affaire.
Le problème, c'est est-ce que la CAQ réfléchira de cette manière-là? Parce qu'on a vu quand même que c'est un parti excessivement dépensier qui nous a mis dans la merde avec un déficit structurel de 9 milliards indécrottable. S'en défaire.
Effectivement, mais en même temps, il faut se souvenir que ce déficit-là, c'est essentiellement dû aux négociations dans le secteur public.
Oui!
Puis à ce moment-là, puis les partis d'opposition, là, ils étaient les premiers, ces piquets de grève, avec les syndiqués qui étaient en grève.
Un excellent point.
Je veux pas dire que
tu peux reculer, Guillaume, avec le 30% des députés. Là?
Ouais, ça aussi. Mais ça sur le 9 milliards, ça joue pas. Mais au point de vue symbolique, c'était une catastrophe de relations publiques. Oui. On est d'accord, là.
Mais finalement, on s'en va avec... Ça va ressembler à quoi? Puis on le vivra, puis on s'en parlera quand on sera rendu là. Mais quand même, le seul vraiment qui tranche, c'est du M. Parce que les autres partis vont être un peu dans la même giblotte, c'est-à-dire la défense du modèle québécois, mais à peu de choses près, certaines petites modifs. Comment tu vois ça, le combat électoral qui va s'opérer?
Ben, c'est sûr que Duhem, en termes d'idées, il risque de gagner.
C'est plus tranché.
Il risque de la gagner. On l'a vu à quel point Bernard Drainville a repris des idées d'Éric Duhem. Il a fini à 42%.
Aimes-tu Duhem?
C'est quelqu'un que...
Nationaliste de droite.
J'ai déjà fait un Facebook Live, moi, avec... puis même avant, je pense, pendant sa course à la chefferie. Donc, j'étais un des premiers, moi. Puis quand j'étais chroniqueur à l'époque à Cogeco, en Estrie, puis j'en parlais de sa campagne avant que tout le monde en parle dans les médias en dehors de Québec. Là. Fait que moi, j'ai aucun problème avec Éric Duhem, pas toujours d'accord avec lui sur tout,
mais ça,
mais
grave,
j'ai toujours respecté. De toute façon, moi, je suis un peu un intellectuel. Fait que de voir un intellectuel qui fait de la politique, moi, c'est de la musique à mes oreilles. Bon, une fois qu'on a dit ça, j'observe les chiffres, puis depuis 4 ans, il stagne là, à 12-13%.
Donc, c'est là, un parti régional.
C'est ça.
Disons-le, la Beauce et Québec.
Par chez nous, je te dirais, ça peut se rendre jusqu'à Mégantic. Pour te parler un peu de mon coin,
en
Estrie, je pense que la vague, c'est un peu la suite de la Beauce.
Oui.
Fait que ça peut se rendre là, mais effectivement, il y a le côté régional. Puis à un moment donné aussi, le problème, puis là, on le voit, parce que là, bon, évidemment, il fait de l'œil à l'aile nationaliste, aux électeurs de l'aile nationaliste de la CAQ qui ont perdu avec M. Drainville. Quoique Mme Fréchette n'est pas nécessairement antinationaliste non plus, là, il y aurait des nuances à apporter. Mais c'est correct, c'est de bon jeu, de bonne guerre pour M. Duhem de faire de l'œil aux électeurs nationalistes de la CAQ. Mais on sait que c'était opposé à la loi 96, fait que... C'est sur la langue, là, on attend à ce qu'il faudrait qu'il fasse quelque chose. Puis c'est la même chose que le PQ. Le PQ fait de l'œil aux électeurs nationalistes de la CAQ, mais qu'est-ce qu'il leur propose concrètement? Je trouve ça un peu facile de juste faire de l'œil le lendemain de la défaite de M. Drainville, sortir et dire « Venez chez nous, les portes sont ouvertes. » C'est comme si les portes des partis étaient fermées. Là. Ça veut rien dire.
c'est
comme Mme Fréchette.
Ouais, il n'y avait pas le droit d'aller au PQ, mais depuis hier, ils ont le droit.
Ouais, c'est ça. Là, c'était ouvert. La porte est ouverte. Non. Soyez concret, proposez-nous du concret. Là. Dans le cas de M. Duhem, sur la langue, on l'attend. Là. Depuis la loi 96, chez les nationalistes, il s'est peinturé dans le coin. Il y a bien du monde qui en veulent. Puis à l'époque, je comprends, il y avait beaucoup d'appui chez les anglophones. Là, les libéraux reprennent là, beaucoup d'appui chez les
anglophones. Excellent point. Donc,
il n'y a pas de comté à gagner dans l'ouest de l'île.
Se camper différemment parce que... comme tu le dis, les Anglos sont retournés à la maison.
C'est ça, puis il n'y a pas de comté à gagner. Comment qu'il ferait 25% dans Westmount, là, le PCQ?
Il n'y aura pas d'élus,
il n'y aura jamais d'élus. Il n'y a rien à faire.
Vois-tu un gros capital? Parlons de milliards, là, on a effleuré le sujet. Vois-tu un gros capital de progrès chez Milliard? Est-ce qu'il peut progresser chez les Franco?
Manifestement, il le
comment
fait.
Comment tu définis la bébite, le pharmacien, là?
Ouais, ben manifestement, c'est ça. Je reviens à ça. Il s'inspire de Robert Bourassa. Il l'a dit lui-même.
Okay.
Puis il faut avoir notre âge pour se souvenir de Robert Bourassa. Oui. Mais Robert Bourassa, on se souvient de ses ambiguïtés, on se souvient du côté économique, mais en termes de tactique politique, là, c'était souvent l'ambiguïté. Pas toujours beaucoup de contenu, même si c'était un intello et qu'il y en avait du contenu, en termes de quand c'était le temps de prendre position, il était un petit peu ambigu. Il y avait beaucoup de slogans. Les 100 000 emplois, c'était très fort. Là, M. Milliard s'est directement inspiré de ça avec ses 100 000 logements. Et là, aussi, c'est les attaques contre les adversaires. M. Bourassa, on se souvient moins, mais il était fort pour peinturer le PQ dans le coin. Puis les...
Il était masquin.
Exactement. Puis M. Mignard va s'inspirer de ça aussi. Puis, jouer la carte nationaliste, juste un petit peu, pour pas effaroucher sa base anglophone, mais quand même un petit peu, puis une espèce de jeu d'équilibriste subtil, là. M. Mignard, il est là-dessus, là, hein, sur la laïcité, il dit « Je vais pas y toucher, moi, l'interdiction du port de signes religieux pour les enseignants, on va laisser ça là, mais on va enlever la disposition qui protège la loi. » Là, on va laisser les tribunaux faire le travail, un peu comme Robert Bourassa a fait avec la loi 101. Quand il a pris le pouvoir après que le PQ a adopté la loi 101, il ne l'a pas aboli. Il a juste laissé les tribunaux faire le travail de l'invalider. Donc, M. Mignard s'inspire beaucoup de M. Bourassa. Et ça, ça veut dire que ça peut donner des bons résultats électoraux parce qu'on sait que M. Bourassa n'a eu 4 majorités, pas en ligne, là. 2 fois 2.
Ça reste d'être vraiment intéressant.
Ouais, il faut vraiment se souvenir de Robert Bourassa pour comprendre Charles Mignard.
Guillaume, je vais m'en aller à Ottawa. Ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qu'on a vécu hier? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Parce que là, hier, là, c'était un film, là. Mais je veux dire, avant le film, il y a eu d'autres séquences qui nous ont mené à ça, là. C'est-à-dire le racolage des députés qui ont décidé de virer le cul à la crèche, comme on dit, et de trahir carrément leurs électeurs. Comment tu lis les événements d'hier qui donnent, rappelons-le, une majorité à Carney? C'est le premier gouvernement majoritaire à Ottawa depuis 2019. Capoté.
Non, effectivement.
Capoté. Comment tu lis ça,
Guillaume? Moi, je pense que les électeurs ont 3 priorités. L'économie. C'est vraiment comme ça que je la comprends, celle-là. Puis c'est intéressant parce que là, on pensait que c'était peut-être un accident de parcours qu'il a gagné par un vote, une couple de bloquistes qui était resté endormi ce matin-là. Non, c'est pas un accident de parcours, là. Des comtés, des forteresses bloquistes peuvent devenir libérales, fédérales. Donc là, ça change.
Donc Terrebonne. Une forteresse.
Puis, on a vu Terrebonne, comment ils ont voté péquistes il y a pas longtemps.
Mais oui!
C'est pas comme s'il y a plus de souverainistes, là.
PSPP est allé 9 fois le chef du bloc.
Ça a été un raz-de-marée péquiste il y a à peine un an, là. Donc là, il se passe de quoi? Puis là, il va falloir que les souverainistes se réveillent.
Il se passe quoi, Guillaume?
Il se passe quoi? Que là, c'est l'économie qui est la priorité. Puis autant, moi, je suis un gars
l'économie,
qui travaille
ces questions. L'économie, l'anxiété, le jaune-orange,
exactement,
trompette.
Tout ça va ensemble. Puis à la fin de la journée, ce que fait Trump en termes de liberté publique aux États-Unis, il y en a qui s'énervent avec ça, mais je pense que l'électeur moyen, c'est pas ça qui le préoccupe, là. C'est vraiment les tarifs, l'impact sur l'économie ici, le prix du gaz, tout ça. C'est ça la priorité. Puis autant, moi, je suis un gars de constitution, d'identité, de langue, laïcité, mais je suis capable de me mettre les yeux devant un trou et dire...
Tu lis bien, là.
Écoute, c'est l'économie, fait que là, il va falloir que les souverainistes se réveillent, là. T'sais, leur discours économique, là, de dire le Québec souverain serait viable, c'est pas assez, là, le budget de l'an 1, c'est pas assez.
Mais ils laissent pas d'oxygène, Carney, quand tu dis que les souverainistes se réveillent. Les conservateurs, eux autres, comment tu manœuvres? Là, il était parti sur une lancée, Poilievre, mais Poilievre, comment il ferait 54 podcasts par semaine? Ça mène à rien, là.
Ouais, effectivement.
Il pédale dans le beurre, là.
Non, fait que lui, il fait juste survivre au prochain en espérant que lui.
Vas-tu rester là?
Ben, c'est pas évident parce qu'en même temps, c'est toujours la question.
Trois ans, c'est long, Guillaume, là.
Effectivement, la plus grande force de Poilievre, c'est qu'il n'y avait pas d'alternative. T'sais, dans le fond, on a bien beau pas aimer le chef ou trouver qu'il stagne dans les sondages.
Il y a du monde qui va se tanner.
C'est ça. Là, est-ce que Jason Kenney va s'organiser? C'est la question qu'on se pose.
Benny Mulroney, qui veut s'en aller maire de Toronto, lui, voir des téléphones, là.
Ouais, effectivement.
Ben.
Ben ouais, surtout qu'il y a des. Le fait qu'il soit le fils d'eux, on sait que ça peut aider, là. On l'a vu avec Justin. Fait que c'est ça la question. La question qui se pose dans les prochains mois, c'est est-ce qu'il va émerger une alternative? Quelqu'un qui va incarner cette possibilité de remplacer M. Poilievre? Puis en même temps, on sait que c'est pas Brutus qui remplace César, là. Fait que celui qui va aller au front contre M. Poilievre, c'est pas lui qui va le remplacer. Donc ça prend quelqu'un qui va rester un peu neutre, qui va pas se salir les mains. Mais qui sera en mesure, plus, il faut qu'il parle les deux langues, il faut qu'il ait une expérience, il faut qu'il parle au Québec, à l'Ouest, à l'Ontario. C'est pas simple, c'est une coalition, hein, les conservateurs. C'est à la fois les populistes de l'Ouest, les conservateurs un peu ruraux de l'Ontario, des nationalistes québécois. Pas facile de maintenir ça ensemble.
Le bloc, dernière question, au final, ça donne quoi? On s'obstine souvent ici avec un nationaliste qu'on entend bien, qui me fait penser à toi d'ailleurs, Vincent Bégin. Lui, il défend le bloc, mais moi, je dis que le bloc, c'est une perte de temps. Le Bloc s'est dénaturé, est devenu un parti de l'establishment quasiment fédéraliste. Il fait partie de la machine. C'est-à-dire, les axes d'attaque du Bloc sont devenus tout à fait impertinents. C'est devenu même un parti écologiste. Ça n'a pas rapport.
Ouais, ben il y a le côté de gauche.
C'est un parti qui devrait être de conservateur du Québec.
Effectivement, le côté de gauche du Bloc, je pense que c'est allé trop loin il y a certaines années. Là, avec le recentrage du PQ, peut-être que ça pourrait amener le Bloc à se recentrer. Je pense que c'est souhaitable. Mais la grande force du Bloc, ça demeure que les autres partis fédéraux sont moyens en ce qui concerne le Québec. Ben là, M. Carney est très populaire.
Oui, disons-le.
Mais tu sais, même, il est populaire, mais tu sais, on sait qu'il y a des positions sur des questions d'identité et tout. À un moment donné, ça va remonter à surface. Là. L'économie, c'est la priorité, mais ça ne sera pas éternellement le seul enjeu. Les libéraux fédéraux ne défendent pas le Québec dans plein de dossiers. Puis les conservateurs, on le voit là, sur la question de l'exemption religieuse en matière de discours haineux. Ils ont une position, ils se promènent. Il y a de la députée qui se promène avec la Bible dans un comité parlementaire. Tu sais, c'est déconnecté du Québec. Là.
Oh oui.
Fait que la force du Bloc, ça a toujours été ça. T'sais, le Bloc n'a pas été parti parce qu'on trouvait que c'était la meilleure idée du siècle. C'était juste que les autres étaient tellement mauvais, étaient rendus qu'ils livraient tellement plus pour le Québec qu'il y a des libéraux et des conservateurs qui ont quitté leur parti pour fonder le Bloc. Puis 30, 40 ans plus tard,
c'est encore vrai. Là.
Exactement. Puis Lucien Bouchard, puis bon, 30 ans plus tard, c'est encore vrai que les autres partis fédéraux sont pas là pour le Québec quand il faut. Fait que le Bloc demeure pertinent comme par défaut un peu, je trouve. Là.
Guillaume, merci beaucoup.
Ben, ça a été un plaisir.
Puis on invite les gens à aller voir quoi? T'as un podcast avec Roxane la Banane? T'es allé enregistrer ça hier?
Ouais, ça devrait sortir dans les prochaines semaines.
Ouais?
À Green Neuron. Ouais, vraiment, une belle gang.
Très bon. Merci beaucoup d'être passé.
Ben,
et bienvenue dans Morel Live.